écoutez le balado Réflexion et entrepreneuriat avec Nelson Roberge. Bienvenue dans l'univers de Baron Mag.
Je suis présentement avec Alexandre Fontaine-Rousseau. Parce qu'on est au Salon du Livre, on a une édition, on fait des balados spéciales sur le Salon du Livre parce qu'on est là avec un kiosque. Vous écoutez Réflexion et entrepreneuriat. Mon nom est Nassim Roberge, je suis co-éditeur de Baron Mag. Je suis un petit peu chamboulé parce que je n'avais pas planifié que l'entrevue avec Alexandre se passait maintenant. Et il y a juste lui qui fait...
À ma grande surprise, je m'en souvenais. Je suis là.
Avant toute chose, il faut que je répète que le balado est live sur Facebook, sur YouTube et sur notre site Internet et sur LinkedIn aussi. Et il va être transporté ensuite sur Apple Podcasts, sur Spotify et sur Google Podcasts. Donc, vous pouvez vous inscrire pour nous suivre à ces places-là. Donc, c'est ça. Donc là, pour le Salon du Livre qui se déroule du 25 au 28 novembre, on reçoit différents auteurs qui ont un certain rapport avec l'entrepreneuriat. Et là, là, ça va avoir l'air bizarre parce qu'on parle avec toi en ce moment puis qu'on parle de CSM. Mais l'entrepreneuriat, c'est qu'on parle de bénévolat ici. On parle de s'investir dans quelque chose. Pour des idées ou pour une idéologie ou pour une façon de faire. Donc, tu viens de lancer un livre.
Oui, qui s'appelle « Les strictement défendus pouvoirs en studio, 30 ans de bénévolat à CISM », en fait, aux éditions de ta mère. Comme son nom l'indique, c'est un livre qui a été lancé, tu peux le montrer.
Je vais le montrer au monde ici.
Il est lancé pour le 30e anniversaire de CISM, mais en fait, pour le 30e anniversaire de CISM sur la bande FM, parce que si on regarde vraiment l'histoire de CISM,
vrai.
Il y a eu une période dans les années 80 où la station était diffusée à l'interne de l'Université de Montréal avant de finalement faire le saut à la bande FM. Fait que c'est ça. Quand Étienne et Éloi de CISM m'ont approché, ce qu'ils voulaient, c'était faire un livre qui n'était pas nécessairement la grande histoire de la station. On a déjà raconté une couple de fois. T'sais. Notamment, il y a un podcast en genre 12 épisodes qui a été fait, je pense, pour le 25e de CISM, qui est quand même assez exhaustif, mais qui raconte quand même l'histoire officielle de la station. Puis là, l'idée, c'était de partir justement des expériences des bénévoles. Puis moi, vu que ça fait 12 ans que je suis bénévole à la CISM, genre, I can relate. J'étais comme, j'avais comme 36 ans, je me rendais compte que ça faisait le tiers de ma vie que je faisais du bénévolat à CISM. J'étais comme, clairement, ça vient toucher une corde sensible de parler de ce sujet-là. Fait que je me suis dit que tout de suite, c'était pas un livre qui filait comme une commande, que ça allait être comme quelque chose que j'allais pouvoir m'approprier de faire.
Oui, totalement. Donc là, tu dis ça, une des raisons pourquoi que je voulais t'avoir là, c'est à cause que moi aussi, j'ai été collaborateur à CISM. Ouais. J'ai animé des émissions. Avec Baron Mag, on a beaucoup travaillé justement durant le 25e plus le 20e. Ouais. Parce que bref, on avait créé un journal autour de ça, puis on avait fait des. Puis beaucoup de gens qu'on connaît maintenant dans l'industrie ont passé par CISM, beaucoup de journalistes, beaucoup de n'importe qui en marketing, en sorte.
CISM a été en partie par le premier directeur de la programmation, ça a été Patrice Leroy.
Oui, c'est ça quand même.
La première entrevue en ondes sur la bande FM, c'est Sébastien Benoît qui l'a fait à l'époque. T'sais. Puis lui, Sébastien Benoît, il étudiait en droit à l'époque, je pense. Puis il a comme découvert la radio en faisant finalement 15 heures. Ce qu'il m'a dit, c'est qu'il faisait genre 15 heures par semaine d'animation à CISM. Ouais,
d'animation.
Puis j'étais comme, OK, c'est quelque chose d'autre. Je pour en avoir fait pendant 12 ans, 2 heures par semaine, c'est déjà beaucoup de travail de programmer 2 heures. Fait que 15 heures, je ne peux même pas m'imaginer la somme de travail que ça représente quand tu es censé étudier en droit universitaire.
Oui, c'est ça, exactement.
Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a la liste pour essayer d'aller à l'infini. Ce n'est pas juste des noms qui ont comme nécessairement percé dans l'industrie mainstream, mais il y a aussi des gens comme Ghislain Poirier ou juste des. Tu sais, moi, ce qui me fascine le plus, c'est aussi des gens qui sont là depuis 20 ans, 20, 22 ans, tu sais, qui animent par passion, par envie de partager leur passion pour la musique ou pour quoi que ce soit d'autre. Mais aussi, c'est quand même un truc de don de soi, puis un genre de, je pense, de résistance à. Tu sais, on est dans un podcast sur l'entrepreneuriat, je pense que la mentalité, c'est ça, mais à la limite, c'est à l'encontre de ça, c'est de ne pas vouloir faire de soi-même une. Tu sais, je pense que je suis aussi travailleur en autonome en deux sites. Il y a comme une volonté de faire des gens, des gens.
Soi-même,
exact.
Être capable d'être autonome en général.
Absolument. Puis, je n'ai pas de misère avec le fait d'être autonome et de pouvoir se gérer. Mais par ailleurs, je pense que c'est bien de ne pas nécessairement toujours se percevoir soi-même comme une marchandise avant tout.
Oui,
de juste faire les choses parce que par passion, puis par envie de faire ces choses-là, je trouve que c'est super important. Puis, finalement, moi, j'ai fait une soixantaine d'entretiens pour ce livre-là. Puis, des gens qui ont animé à CISM à toutes les époques de mm-hmm. la station. Puis, je veux dire, c'est le fil conducteur, c'est tu rencontres plein de gens qui ont fait ça, justement, qui ont ce don de soi là, vraiment partagé. C'était super émouvant aussi. Là, puis, c'est émouvant de découvrir autant des gens qui sont encore à CISM, qui sont là depuis 20 ans, puis, que des gens qui ont fait comme 15 ans, puis à un moment donné, on n'est pas de signer.
On est au Salon du Livre.
Il y a des gens veulent signer, c'est ça qui se passe.
On n'a pas de signer, désolé.
Un autographe.
C'est un auteur. Il a fait ce livre-là ici avec un petit chien.
Si tu veux signer, même si tu n'es pas un auteur.
Bon, alors, on ne s'attendait pas à ça, mais c'est
non,
je vois du live.
Ben oui, exact.
Je signe n'importe quoi ce que tu
absolument,
veux.
Absolument, oui, c'est ça, les cahiers.
Attends, j'en ai un autre.
Je vais prendre ton crayon parce que ça, c'est
l'autre. Là, vous, votre objectif, c'est d'avoir le plus de signatures.
Ouais.
Peu importe c'est qui. Hein.
Non,
mais vous devriez avoir lui parce que lui, il est bien connu, lui.
Ah, okay. Wow, ça se passe. Je vraiment pas me laisser les crayons trop longtemps parce que je vais les avoir.
Oui, hein, les crayons, c'est pas possible.
Si tu veux, je peux continuer l'entretien en même temps.
Ben regarde, justement, tu sais, le livre, c'est quoi? C'est des entrevues, c'est clairement...
C'est pas exactement formulé comme des entrevues là, dans la mesure où chaque chapitre est comme une rencontre avec quelqu'un. Après ça, c'est pas juste la retranscription, c'est pas juste comme question-réponse. On parle vraiment d'un livre où, en fait, quand CISM m'a approché, ce que les gens disaient, c'était on a lu les livres que tu as fait avant, on a aimé le contenu là, on veut pas que ça se perde. Fait que je commande beaucoup, je suis comme toujours un peu présent, je me mets en scène comme un peu la l'intervenant invisible pour les fait que c'est toujours des rencontres, c'est des portraits de rencontres, c'est plus que des entretiens de tout ce qui n'est pas comme si j'avais. Fait que, puis en même temps, je veux dire, chaque bénévole devient aussi la pierre dans un édifice. Je voulais pas me concentrer sur l'histoire, la grande histoire de CISM, mais je voulais quand même qu'elle soit là. Fait que c'est sûr que ça, c'est à la fin, quand tu te retrouves devant des tonnes d'entretiens. Puis, je veux dire, ça a été quelque chose de faire ça, parce que c'était pendant la pandémie. C'était bien des zooms. C'était enregistré. C'était le big picture derrière toutes ces rencontres-là. Ça a été le défi, je te dirais, sur ce projet-là en particulier. Je te dirais, chaque livre a son... L'autre défi avec ça, c'était chaque personne, tu veux que chaque personne dont on parle dans le livre se sente pas... je voulais que les gens se reconnaissent dans les textes. Je voulais que leur voix, même si ma voix d'auteur est la grandeur du livre, par contre, je voulais que ce soit quand même le texte de chaque personne qui se retrouve dans le livre. Que chaque personne se sente vraiment représentée. Je ne voulais pas voler le choix.
Ouais,
en même temps, je ne voulais pas disparaître complètement. Les autres personnes avaient un livre. C'est ce genre de
question. Oui, c'est ça, c'est comme le personnage qui savait rencontrer tout le monde.
Exact. Un peu. Mais en même temps, qui est capable de disparaître de temps en temps. Je dirais ce genre de livre. C'était aussi le premier. C'est mon dixième livre, donc j'avais l'impression d'avoir déjà fait ça, des livres.
Dans le même genre?
Non, c'est ça. Je suis surtout scénariste de bande dessinée. Hein.
C'est ça.
Fait que c'est quand même plus... je travaille avec un illustrateur, fait que nécessairement, il y a un dialogue, mais c'est un dialogue. Je l'ai accepté en me disant, je sais comment faire des livres, mais après ça, il y a tout un travail de journaliste qui embarque, qui est vraiment différent. Je t'avoue que j'avais peut-être pas évalué... au début, je pense que l'idée, c'était de faire 70 portraits, puis à 5 ans, je pense que le livre tout à fait satisfaisant en termes de volume, mais aussi gérable en tant que... J'étais comme, OK, je ne pouvais pas en faire 70, je vais vous faire
vraiment.
Ça va être le livre du 30e de CISM qui sort pour le 31e.
Mais tu sais, justement, en parlant de bénévolat, tu sais, le gros truc d'affaire de CISM d'un, c'est que les gens font du bénévolat d'un parce que c'est le fun de faire de la radio. C'est le fun que tu apprends, c'est mais c'est qu'on parle de culture. Puis ça, c'est la culture, c'est ce qui crée et le pont et le tout avec tout ça. Puis c'est ce qui fait en sorte que le monde est content de pouvoir partager des choses avec les autres, blablabla, puis c'est pour ça que le monde donne autant de temps. À ça, moi, ça serait. Est-ce qu'il y aurait d'autres raisons pourquoi les gens sont tant de bénévolat? Dans un projet comme celui-là.
Je peux dire que c'est vrai que les gens ils ont partagé leur passion pour la musique, notamment. Et je pense qu'une des choses, c'est que finalement, c'est ISM, c'est le seul endroit où tu vas avoir un peu la liberté nécessaire pour faire ça. T'sais, j'ai l'impression que dans le paysage culturel, partons de Montréal pour commencer, mais dans le paysage culturel montréalais, une station où tu peux programmer 2 heures d'un genre de musique, par exemple. Ouais. Tu vas faire 2 heures de jazz, 2 heures de reggae, 2 heures de funk. Il n'y a pas d'autre endroit où il y a cette opportunité-là. Fait que nécessairement, si c'est ça que tu veux faire, ça va être une station comme c'est ISM ou Sécurité que tu vas faire ça. Fait que, je dirais que c'est fun que ce soit du bénévolat, mais en même temps, c'est aussi parce qu'il y a comme il y a une place. T'sais, quelqu'un qui devrait partir d'une radio vraiment plus nichée, musicale, sérieuse, puis offrir des jobs à plein de gens qui ont fait leur temps à CISM. Puis ces gens-là, ils seraient contents de partir. Il n'y a personne qui se dit je suis vraiment content de ne pas faire une scène là-dessus au bout de 15 ans. Mais à chaque fois que je pense à arrêter, je me suis souvent posé la question combien de temps je vais faire ça? Je suis pris comme une immense tristesse, je verse une larme, de toute évidence, c'est pas le moment. Parce que c'est trop important pour moi, tu sais, puis je veux dire, comme mélomane, c'est super le fun, tu sais, je pense que de pousser à faire de la recherche musicale à chaque semaine, veux pas, ça te permet, toi, de grandir, c'est pas juste de partager ta passion avec les autres, c'est aussi de la cultiver toi-même, tu sais, justement, tu sais. Tu ne veux pas faire jouer les mêmes affaires à chaque semaine, mais tu es toujours en train de faire la recherche. Puis, je veux dire, je l'ai vu, il y a des gens là, qui arrêtent, puis je veux dire, comme, qui t'écoute, tu fais de la musique? Ah non, je suis pas mal joué sur les mêmes affaires.
C'est ça.
Ouais, c'est ça. Le jour où je vais arrêter de faire de la radio, je vais commencer à écouter les mêmes affaires. Puis c'est ça. Je pense que tu fais aussi parce qu'il y a quelque chose de super. Ça t'entretient mentalement, là, si on veut. Là.
Est-ce que tu sais
que
c'est ton 10e livre avant
de
la bande dessinée?
C'est encore ça que je fais.
C'est ton
seul
livre.
Non, j'en avais fait un sur les jeux vidéo. C'est fait. En fait, c'est mon 3e pour les éditions de ta mère. Le reste que j'ai fait, c'est des scénarios de bande dessinée. Mais ouais, non, je ne vais pas me mettre à faire uniquement à partir de maintenant des livres super nichés sur des stations de radio universitaires. Mais je vais en avoir énormément, mais je pense que plus ça va aller, plus ça va être comme OK, celui-là, il est sur Chiz.
Oui, c'est
le portrait de bénévole de Chiz.
Est-ce que les 12 ans, justement, tu penses que ça t'a apporté quoi de différent en tant qu'auteur?
Totalement, c'est même pas une question.
À quel niveau ça t'a.
Mais non, mais c'est même pas une question. Non, mais pas dans le sens de ceci n'est pas une question, c'est de la merde. Mais non, dans le sens où c'est clair que oui, dans le sens où je pense que. Tout ce que les gens me racontaient sur ça, je pouvais me reconnaître d'une manière ou d'une autre. Puis, je veux dire, c'est important quand. Je veux dire, c'est une question dans tout le monde a de l'empathie, tout le monde est capable de. Mais je pense que de te reconnaître personnellement dans ce que les gens te racontent, ça me permet tout de suite de cliquer. Puis, je veux dire, c'est pas juste c'est la question du bénévolat, c'est de rencontrer des gens que. Moi, je suis pas le plus gros fan de hip-hop québécois, par exemple, mais de rencontrer les gars de Ghetto Érudit, puis tu sais, de voir qu'ils faisaient ça. Je veux dire, j'ai pas besoin d'aimer le même genre de musique qu'eux pour être comme je me reconnais totalement dans ce que vous dites par rapport à fouiller dans une scène, tu sais, faire des connexions, rencontrer des gens. Toutes ces choses-là, je veux dire, je pouvais les reconnaître un peu plus instinctivement que si quelqu'un était arrivé et avait juste dit je vais étudier ça comme un entomologue, puis ça va être des petits insectes que j'étudie un peu plus loin. Tu sais, non, c'était.
Puis pour m'expliquer un peu, toi, c'est quoi l'implication que tu as eue et que tu as maintenant avec CISM, c'est que tu animes?
Oui, ben, tu sais, essentiellement, moi, j'ai déposé un démo avec un de mes amis. C'était en 2009. En fait, c'est en 2008. On a commencé en janvier 2009. Donc, on a déposé le démo quelque part en 2008. Puis, écoute, ils nous ont offert la case horaire de minuit à 2h le lundi, ce qui est comme, je pense, le graveyard shift. Mais nous autres, on était vraiment contents de ça. Parce que passé minuit, tu n'as plus de quota du CRTC à respecter, tu n'as plus de publicité. Fait que, c'était 2 heures de musique continue. Fait que, pendant, je pense, 6 ou 7 ans, j'ai fait ça live.
Live, la nuit.
Là, on allait en studio, on s'installait, puis ça, c'est quelque chose d'autre. T'sais, j'ai parlé à beaucoup de gens qui ont animé de nuit, puis je pense que c'est unique. La sensation que là, quand tu es tout seul dans les studios de CISN, c'est la nuit, tu parles dans ton micro, tu sais que ça projette. Mais t'as comme un peu l'impression d'être tout seul au monde. Là, parce que t'es quand même c'est pas le spot où il y a le plus de monde qui se promène dans le campus de l'Université de Montréal de minuit à 2 heures. Fait que c'était ça. À un moment donné, il a fallu que je me fasse une raison. Là, que la raison pour laquelle je passais tout le restant de ma semaine un peu à l'arrache, c'était que genre à chaque lundi, je revenais à la maison à 4 heures un petit peu chaud d'air, puis j'étais comme il faut que ça. Fait que j'ai commencé à enregistrer de la maison, mais tu vois, c'est drôle parce que de faire le livre, de parler à tous ces gens-là, ça fait que cet été, alors que j'étais dans le crunch de finir le livre, il y a eu comme c'est la saison d'été, puis la saison d'été, il y a bien des gens qui prennent comme un congé d'été. J'ai juste dit, ah ben si je mets un trou dans ta grille horaire, je vais prendre un deuxième show. T'sais. J'ai animé 2 shows pendant l'été en même temps que je faisais le livre de CISM, tellement, je sais pas, c'est difficile de ne pas avoir comme de l'amour et de l'enthousiasme pour cette gang-là. Quand, c'est ça. C'est pas juste. C'est un club social. Là, il y a des gens qui n'ont plus nécessairement le temps de voir les amis avec lesquels ils animent leur émission, mais une fois par semaine, ils font l'effort de se réunir en studio, de voir le monde. Puis ça aussi, c'est comme le temps, là, c'est comme quelque chose que je trouve que nos sociétés nous en volent beaucoup sans vraiment se sentir mal. Là. Puis genre, tu te dis, bon, mais. Là, à ce moment-là, je vais faire ça. Ça échappe à tout le reste de ma logique, de ma semaine. Puis c'est une occasion, justement, de voir des amis, de me consacrer à ce que j'aime. Je trouve que c'est super important. Je trouve que c'est... quand on parle d'un espace de liberté à CISM, c'est un espace de liberté éditoriale, mais au plan personnel, c'est aussi un espace de liberté sociale. Puis
humain. C'est pour faire un pan avec l'entrepreneuriat, dans le fond, tu sais, c'est que quand je pense que plus tu laisses de créativité ou plus tu laisses de liberté aux gens dans ton projet, que n'importe quel projet, plus que tu vas avoir des gens qui sont prêts à s'y donner, puis à s'y mettre, à donner de leur temps, puis à développer un peu, à avoir une vision globale, dire comme oui, tu sais, ça c'est un combat sur lequel je suis capable de me battre, puis que je veux absolument.
Tu finis par ton émission, elle t'appartient, puis tu as une valorisation de tu as l'impression de créer quelque chose. Tu sais, je veux dire, quand je sors un livre, quand je fais une émission de radio, j'ai un peu la même satisfaction à différentes échelles, parce que mon show de radio, je vais avoir travaillé dessus pendant 2-3 jours pendant la semaine, tandis que le livre, ça va être comme 6 mois, 1 an, tu sais. Fait que, d'avoir vraiment l'impression que c'est quelque chose qui te représente, puis que c'est une partie de toi-même que tu partages avec les gens, tu sais, je trouve que. On a facilement l'impression que c'est comme du contenu, c'est ça que c'est, mais c'est ça. On en révèle beaucoup sur soi-même à travers ce qu'on produit. J'ai l'impression qu'en bout de ligne, c'est important de se reconnaître dans ce qu'on fait, dans ce qu'on crée. Sinon, c'est
ça
impossible d'avoir
quoi?
Exact. De quelle manière je me rattache à ça, quelle valeur, qu'est-ce que ça m'apporte à moi, je ne sais pas. Dans la vie, tous les jobs qui m'ont donné l'opportunité de faire de l'argent, mais qui ne m'ont pas donné l'opportunité de sentir que j'existais, j'ai fini par les lâcher éventuellement. CISM, que pendant des années, je n'ai pas fait une scène là-dessus. Je suis probablement tombé malade 2-3 fois parce que je prenais à 4 heures du matin. Et quand même, j'étais comme non, c'est important que je fasse ça, peu importe.
Je vais y aller avec une dernière question, mais le titre du livre, c'est strictement défendu de boire en studio. On sait que c'est vrai.
Il est strictement défendu de le faire.
Après, est-ce que ça se passe? Est-ce que les règles sont là pour être brisées?
Disons que quand j'ai eu l'éclair absolument brillant de ce titre-là, d'habitude, les titres, c'est comme la pire affaire.
C'est
juste comme Christ, genre jusqu'à la dernière seconde, c'est comme titre de travail. T'sais, celui-là, ça a été comme non, c'est ça le titre, il n'y a pas de question. Tout le monde a dit oui, c'est ça le titre. Non, effectivement, mais tu sais, il y a des trucs, tu sais, je veux dire, le studio, où commence le studio, où arrête le studio, je veux dire, tu laisses ta bière à la porte du studio. C'est drôle aussi, dans les premières années de CISM, il y avait un bar, les studios de CISM n'étaient pas à la même place, mais juste en dessous, à peu près 50 secondes de marche, il y avait un bar qui s'appelait Le Clandestin, qui était comme le gros bar de l'Université de Montréal, tu sais, puis je veux dire, de toute évidence, tu pouvais faire partir une toune
aller prendre
faire, puis revenir. Je pense que c'est un des fils conducteurs peut-être moins officiels, plus officieux de l'histoire de CISM, mais je pense que tout le monde, à un certain point, a bu en studio, ou en tout cas à côté du studio. Je pense qu'il ne faut pas échapper de bière sur la console, ce serait catastrophique, mais...
Mais on a joué avec le feu à travers les 30 ans.
Exact. Des fois, j'arrivais en studio et j'étais comme ça sent la robine à la grandeur du studio. Mais tout le temps, si c'est passé quelque chose ici,
merci beaucoup, Alexandre. Ben, c'était vraiment un plaisir que tu partages ça avec nous. Puis bon salon du livre.
Ben oui, ben, bon salon du livre.